Nous avons maintenant, donc avant la petite conclusion que je vais faire dans la suite du colloque, une intervention de M. Salvatore D'Onofrio de l'Université de Palerme qui va essayer de synthétiser tout ce que nous avons dit, découvert et discuté. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle difficile et puis on se réjouit de vous entendre.
Merci. En effet, la tâche qui m'a été confiée n'est pas aisée. N'est pas aisée non seulement en raison de la richesse des contributions, mais encore des nouvelles perspectives que celle-ci ouvre à l'égard du sujet qui nous a réunis pendant ces deux jours. Car, comme toutes les rencontres destinées à produire des effets durables, les réponses apportées comptent davantage si elles ne se bouclent pas sur elle-même et se révèle capable d'engendrer de nouvelles questions. Or, de ce point de vue, ce colloque a été une vraie réussite. Ce dont nous sommes redevables à M. Romer et à M. González, ainsi qu'à tous les intervenants et à ceux qui ont animé la discussion. Je me suis permis de reproduire la couverture de mon livre que gentiment hier M. Romer a montré à l'ouverture du colloque. Pour proposer des éléments de synthèse du colloque, en adoptant une perspective anthropologique, il faut tout d'abord rappeler que la réflexion sur le sang au sein de l'anthropologie n'a jamais été séparée du regard rétrospectif sur l'Antiquité avant même que cet intérêt prenne la forme d'une science. Il suffit de penser aux observations d'Hérodote sur les Chites dans le quatrième livre des histoires, ainsi qu'à celle du père Joseph-François Lafitau, qui prôna ce rapprochement dès le titre de son livre « Les mœurs des sauvages américains comparés aux mœurs des premiers temps ». Ou encore à des auteurs comme Robertson Smith ou Hubert Amos, dont les paradigmes théoriques sur le sacrifice, aujourd'hui en grande partie obsolètes, ont été bâtis sur la lecture des Védas ou des textes bibliques, au contact des études sur le monde gréco-romain, sur l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie. Les contributions de ce colloque ont montré, sans conteste, que les sciences de l'Antiquité, elles aussi, bénéficient des résultats obtenus dans les disciplines ethno-anthropologiques. En d'autres termes, entre nos disciplines, a toujours existé ce que l'on pourrait appeler une tension productive. Car, d'une part, les sciences de l'Antiquité doivent s'efforcer de ne pas sous-estimer l'importance des invariants dans l'étude de cas particuliers. D'autre part, l'anthropologie ne peut pas oublier que sa démarche se fonde sur l'existence de données ethnographiques récoltées sur le terrain. Pour illustrer la fécondité de cette contagion à double sens, vous me permettrez d'évoquer mon étude sur l'autoflagellation rituelle qui a lieu encore de nos jours à Pâques, dans quelques petites villes de Calabre. À Nocera Terinese, par exemple, où les hommes adultes font sortir abondamment leur sang de leurs cuisses, du gras de leurs cuisses, en se frappant à l'aide d'un disque de liège contenant 13 écailles de verre. Les voilà. Une sert celle de droite pour faire affluer le sang, l'autre pour le faire sortir. Et voilà. Le vendredi saint ou le samedi saint. Face, tout le monde est obligé à le faire face à la statue de la Vierge, une pitié. On reviendra sur cette image à la proposer à nouveau, sous peu. Là, c'est Verbicar, c'est pas Nocera Terinese, c'est pas loin. Où, à part la différence dans les habits, il y a bien des constantes. Voilà. Le battiente, littéralement celui qui se frappe, subit un processus de féminisation qui nous permet d'accéder à la compréhension de ce rituel de sang. Tout d'abord, le flagellant semble faire renaître symboliquement son fils, encore impubère, ou à peine adolescent, à le liant à lui par une cordelette, une sorte de nombril, de cordon nombrical symbolique, qui va du nombril de son fils, cette cordelette, au dos de sa colonne vertébrale, où, selon la tradition, son sperme est censé circuler. C'est des photos d'époque, on voit l'âge des gamins. Là, c'est une photo d'il y a 2 ans. À cette appropriation symbolique du pouvoir génésique des femmes, afin de légitimer la domination masculine, comme on le rappelait hier, un autre élément s'ajoute. Le vatient, le flagellant, endosse une couronne d'épines touffues qui n'est pas posée directement sur sa tête, comme dans le cas de ceux qui portent en procession la statue de la Vierge. Pour se protéger, le vatient utilise un châle noir faisant partie du costume traditionnel des femmes. Enfin, il se saigne, entre autres, devant des pousses de blé que les femmes font germer à la maison et déposent traditionnellement dans le reposoir, l'hôtel du reposoir du Jeudi Saint, pour les mettre dehors et les exposer au passage des vatienti. Là, c'est une image de Sicile, mais on fait ça aussi dans toute la Provence, la région de Provence en France. On appelle ça le blé de la Sainte-Barbe, de Nice jusqu'au Vaucluse. Voilà, le vatient qui se saigne à côté, devant ses pouces, que les femmes ont sorti de l'église à l'occasion. C'est quoi ça? Voilà, dans l'autre village. Nous sommes en présence d'une sorte de changement d'état, pour le dire avec les mots qu'utilise Hubert Hemmos dans leur essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Plus précisément, nous sommes en présence d'une inversion symbolique des prérogatives des deux sexes afin de représenter leur rôle différencié dans la reproduction idéologique et sociale. D'une part, les femmes imitent la culture masculine des céréales, ce qui donne lieu à des pousses destinées à flétrir aussi vite qu'elles germent. De l'autre, les hommes se font saigner une fois par an, alors qu'aux femmes, cela arrive tous les mois. Le même rapprochement que celui observé entre pousses et versement du sang en Calabre a lieu dans des cultures éloignées, par exemple au Népal, où les femmes font pousser de l'orge pour obtenir des jardins verdoyants. Elles déposeront ces pousses dans l'autel du temple, qui a été préalablement aspergé de sang des bêtes sacrifiées. Pour élargir le cadre comparatif, nous pourrions ajouter le sabzé iranien, celui que l'on met sur les tables de Nowruz, parmi les 7 choses, donc parmi 6 autres choses. On pourrait donc ajouter le sabzé iranien en le rapprochant de la choura, le rituel sanglant des chiites. Je ne dirai rien de cela, je me limite à montrer la couverture de mon livre qui vient de paraître et qui aborde toutes ces questions et ces continuités culturelles de l'Inde jusqu'à l'Europe et au pays de l'Arizona. Pour déchiffrer le rituel calabré du versement du sang, il nous a été nécessaire de mobiliser toutes les données du monde ancien qui pouvaient en être à l'origine, ou qui était censé répondre aux mêmes logiques. Non seulement les jardins d'Adonis ou les lits d'Osiris, mais encore les Lupercalia romains, ou bien les rituels des sectateurs d'Attis et Cybèle, ou enfin l'épisode raconté dans l'Exode, où Moïse dit aux anciens d'Israël de toucher avec du sang provenant du menu bétail le linteau et les poteaux de leur porte pour que l'Éternel ne permette pas aux destructeurs d'entrer dans leur maison pour frapper. Si je cite ce passage de l'Exode, c'est qu'à Nocera Terinese, dans une autre petite ville de Calabria appelée Verbicaro, les vatientes ont l'habitude de laisser des empreintes sanglantes de leurs mains ou du disque de liège, sur le dos et la poitrine de leurs enfants, sur les murs des églises, sur leurs habitations, ou sur celles de leurs amis, pour les protéger. Si je me suis permis d'évoquer mon étude d'un rituel sanglant, c'est parce que je crois avoir reconnu dans votre travail des axes qui ramènent de manière incontournable à des logiques universelles dont témoignent, entre autres, les réflexions de Françoise Héritier sur les fluides, et notamment sur le sang. Un premier axe, parmi les plus importants, émerge du colloque et concerne les différentes formes de sacrifice, objet sur lequel les anthropologues n'ont jamais cessé de s'interroger. La nécessité d'un ordonnancement des actes sacrificiels, de par la variété des usages rituels du sang, a été envisagée par M. Romer, dont la saisie d'une même fonction de protection du sang, à partir non seulement des similitudes, mais encore et surtout des différences entre les rituels d'Exode, racontés dans Exode, se révèle un outil méthodologique précieux, car il s'appuie sur une logique de distinction qui n'est pas loin de celle qui a permis à Lévi-Strauss de débroussailler la confusion entourant le concept de totémisme. Là, la remarque de Dominique Charpin sur la caractérisation non sacrificielle de l'immolation de l'âne est à ce propos exemplaire. En d'autres termes, vos travaux vont exactement dans la direction d'un projet d'étude de plus en plus urgent en anthropologie. Faire la critique du sacrifice de la même manière que Lévi-Strauss l'a fait du totémisme aujourd'hui. Et cela en partant des pages de la pensée sauvage où Lévi-Strauss pose la question de la présence dans le rituel d'une, je cite, série d'identifications successives qui vise à créer un rapport d'homologie au départ inexistante entre le sacrificateur et la divinité. Il y a plus. Cette logique prônée par M. Romer permet de rapprocher de la manière la plus productive les discours, les rites et les pratiques du sang, non seulement de sociétés éloignées dans l'espace-temps, mais aussi de lieux différents de la même société. Christophe Nian nous a montré par exemple comment, dans l'Ancien Testament, le sang non seulement s'oppose à la chair, mais il fait le lien entre Dieu, auquel il appartient, le sang, et les puissances chthoniennes. Je prendrai un autre exemple tiré de mes recherches. Les Zoroastriens d'Iran placent encore aujourd'hui, d'Iran, de Paris, de Los Angeles, place encore aujourd'hui et d'ailleurs, encore aujourd'hui sur les tables rituelles de Nowruz, le Nouvel An, des fruits qu'ils coupent pendant la cérémonie avant de les consommer. Ils disent, c'est leur perception de la chose, ils disent qu'ils les sacrifient, car les fruits auraient remplacé, dès l'époque de Zoroastre, les sacrifices d'animaux. Par ailleurs, ils ne mangent pas trop de viande. Être les animaux envers lesquels ils sont le plus profond respect. Les fruits coupés réapparaissent au solstice d'hiver lors d'une autre fête où tous les Iraniens de n'importe quelle religion mettent à table des grenades et des pastèques en raison de leur couleur rouge qui renvoie pour eux à la lumière et au feu. Cette logique des distinctions, pourrait-on l'appeler, a permis à Laura Battini d'explorer les différentes qualités du sang que l'on fait couler lors des sacrifices animaux par rapport à l'opposition pure-impure, une opposition présente dans tous les univers religieux. Cette opposition et le caractère ambivalent du sang dans le monde gréco-romain ont été au cœur de la contribution de Philippe Bourgeot. Dominique Charpin et Vérène Chalandard se sont interrogés respectivement sur la nature du sang utilisé pour les alliances à l'époque paléo-babylonienne et sur les différentes qualités du sang utilisées en Mésopotamie dans les pratiques thérapeutiques. Je voudrais également dire un mot sur la notion de rite de passage appliquée par Alfred Marx à cette catégorie spéciale du rite de sang qui est le sacrifice pour le péché. On voit bien que les distinctions proposées par M. Marx et les éléments du rite qu'il nous a présentés permettent d'aller au-delà de la notion de Van Genep, qui est l'auteur de la notion de rite de passage. Et avec Victor Turner, il s'agit de valoriser davantage la dimension symbolique ambivalente associée au moment liminaire des rites de passage. En effet, vos travaux aussi, et je pense notamment à Julia Reider, David Hamidovitch ou Jacqueline Chaby, ont particulièrement insisté, et c'est un deuxième axe du colloque, sur la caractérisation du sang non pas seulement comme substance, mais aussi, mais encore, comme terme de relation, pouvant faire l'objet, c'est un élément que je souligne, de maintes manipulations symboliques. On retrouve celle-ci dans les croyances des Samos du Burkina Faso, comme dans la pensée scientifique et savante, dans l'Égypte ancienne comme en Sicile ou en Sardaigne. Le système mis en place par Aristote de la génération des animaux est à ce propos exemplaire, car, selon lui, comme l'a relevé Philippe Bourgeot, il n'y a que les hommes qui, grâce à leur chaleur, sont capables de transformer le sang en lait, alors que les femmes qui perdent leur sang, de nature froide, les femmes peuvent seulement le transmuer en lait, en partant de la nourriture, les hommes comme les femmes, qui se transforment en sang, selon la conception d'Aristote. C'est à partir de l'étude de ce système que Françoise Héritier a élaboré ce qu'elle appelle une chaîne de concepts associés, ce dont ont témoigné beaucoup de contributions, celles de Valérie Chalandard, par exemple, et notamment celles qui ont insisté sur la dimension chromatique liée au sang. M. Grimal nous a montré, par exemple, qu'en Égypte ancienne, non seulement le lien entre le sang et le lait est très strict, c'est un des rares à avoir insisté sur cet aspect de prolongement, mais la couleur rouge du sang évoquait la violence et la mort, alors que, mais aussi la vie, et à travers la vigne, la vie éternelle. De même, Valérie Matoyan a souligné le processus de sémantisation des différents fluides corporels par rapport à leur couleur. De ce point de vue, le vin versé sur les blessures des Vatienti, vin qui est parti qui est presque du vinaigre, ce qui nous rappelle quelque chose des évangiles. De ce point de vue, le vin versé sur les blessures des Vatienti en Nocera Terinese va bien au-delà de la fonction cautérisant qui lui est propre. Un troisième axe de réflexion était celui du rapport à l'ennemi. Rapport qui en anthropologie était mis particulièrement en valeur par les collègues amazonistes. Parmi les trois modes constitutifs du lien social, le don, l'échange et la prédation, nous avons choisi le dernier afin de montrer comment le versement de sang dans la guerre et dans les pratiques cannibales en Amérique et au Proche-Orient peuvent être rangés par inversion dans un même groupe de transformation. Lionel Marty nous a amené au cœur du rapport à l'ennemi en se demandant si les Assyriens, d'après le traitement qu'ils faisaient subir à leurs adversaires, étaient sanguinaires. Je crois qu'il a répondu oui. La contribution d'Agnès Anna Motizinagi pose une question analogue. En comparant ces données avec celles sur le cannibalisme des Tupinambas de la côte ouest du Brésil, on constate une première inversion dans le rapport à l'ennemi. Première inversion, donc. Motizinagi nous a montré que la force sacrée du sang humain dans l'imaginaire antique relève aussi des accusations réciproques, des imputations réciproques de cannibalisme, alors que celui-ci n'est pas avéré. En effet, dans l'imaginaire des auteurs grecs, l'anthropophagie est associée, je cite, « au désordre et à la mauvaise religion », tandis que chez les groupes Tupinamba pratiquant le cannibalisme intertribal, on constate les mêmes pratiques et croyances religieuses que ses propres ennemis. Les dieux Arawete, étudiés par notre collègue Eduardo Viveros de Castro, étaient eux-mêmes cannibales. Deuxième inversion. Alors qu'en Grèce, le choix d'une victime sacrificielle humaine n'implique pas que sa chair et son sang deviennent licites pour la consommation, chez les Tupinambas, la mise à mort sans dévoration est impensable. Comme le montrent les chroniques du XVIe et XVIIe siècle de Hans Staden, de Jean de Léry ou d'André Thevet, le cosmographe du roi, les Tupinambas ne faisaient pas la guerre à d'autres Tupinambas pour les exterminer, mais pour en faire des captifs qu'ils sauraient manger rituellement après un certain temps afin de réactiver le processus de construction du social. On est à l'extrême, aux extrêmes limites de l'humanité, mais il y a néanmoins une logique qu'il faut saisir. En effet, le captif recevait une épouse, en épouse, la sœur, une sœur du futur meurtrier, pour qu'il baptise un ménage destiné à un moment donné à être défait. Car ce beau-frère temporaire sera mangé rituellement après quelques années avec les enfants qu'il avait eus avec la sœur de son meurtrier. Or, ce dernier était le seul qui s'abstenait de cet acte anthropophagique. En revanche, il prenait un nouveau nom et s'isolait de la même manière que le faisaient chez les Tupinamba les femmes menstruées. Aussi, dans le cas du maître Tupinamba, la féminisation par le sang côtoie le rétablissement de l'état de société. Contrairement au contexte biblique étudié par Dorothea Herbel et Custer, le sang de la victime n'implique donc aucune responsabilité chez les Tupinamba, aucune responsabilité du meurtrier. Ce sang ne retombe pas sur lui, selon la belle expression que l'on trouve dans la Bible. Les choses sont encore plus compliquées, et j'en termine avec ces conclusions, sont encore plus compliquées du fait que finalement, par la consommation du sang et de la chair de l'autre, les Tupinamba récupèrent une partie de leur identité dont les ennemis s'étaient auparavant nourris. C'est la soi-disant altérité constituante, selon la belle formule de notre collègue Philippe Erickson, qui est peut-être applicable au mythe babylonien d'Atramasis, dont nous a parlé Nel Ziegler, et de manière plus subtile aussi aux connotations du sang en Zacharie 9, qui ont été étudiées par Hervé González. Par rapport aux différentes parties de ce texte, on peut remarquer en effet un glissement sémantique fort intéressant, car on passe d'un tabou alimentaire du sang qui oppose l'ensemble des Levantins aux Grecs, on l'oppose à la consommation métaphorique du sang de l'ennemi par les guerrières, les mêmes guerrières d'Israël. « Ils dévorent, dit le texte, ils boiront le sang comme si c'était du vin. Ils en seront engorgés comme un vase à aspersion, comme les angles de l'autel. » On retrouve cette idéologie sanguinaire dans des expressions encore courantes en Italie du Sud, comme par exemple « sang, que tu puisses verser ton sang du cœur ». Et en se référant à l'ennemi, je dois en boire le sang. Je voudrais mettre terme à cette conclusion en évoquant encore une étude anthropologique de Claude Lévi-Strauss, qui dans son article magistral publié dans L'Homme, Exode sur Exode, le deuxième est Exode en italique, le premier en romain, rapproche le rituel d'imposition de l'étui pénien chez les Bororos du rite de circoncision du fils de Moïse et de Zippora raconté dans l'Exode. En dépit de leurs différences, ces deux rites sont en rapport de symétrie inverse. Et leur exégèse, écrit Lévi-Strauss, je cite, se heurte aux mêmes problèmes et suscite les mêmes questions. Ces problèmes et questions pourront nourrir d'autres rencontres et consolider les liens d'amitié qui se sont créés lors de ces deux belles journées d'études. Pour cela, je me permets de remercier au nom de tous Thomas Romer, Hervé González. Merci.